ne s'était pas éloigné pour autant. « Eh bien quoi, la fille ?» demanda Juan Diego à Clark. Ce n'était pas une question innocente. Il savait que la relation mère et fille le tarabustait. « Et tu dis que je dois la revoir ? Dans quelle île déjà ?» Avant que Clark ait pu répondre, il se tourna vers Josefa. « Quand on ne fait pas soi-même le programme, ce n'est pas facile de se souvenir des points de chute. « Ces médicaments que vous prenez, commença-t-elle, vous prenez toujours les bêta-bloquants. Vous n'avez pas arrêté le traitement, j'espère. » C'est alors que Juan Diego se rendit compte qu'il avait dû cesser de les prendre. Toutes ces pilules éparpillées dans la salle de bain l'avaient forcément induit en erreur. Il était en pleine forme ce matin. S'il avait pris les bêta-bloquants, ce n'aurait pas été le cas. Il mentit au docteur Quintana. « Bien sûr que je les prends. Il ne faut jamais arrêter, ou alors très progressivement. » « Gardez-vous bien d'arrêter sans consulter votre médecin. »« Je sais. »« Vous allez d'ici à l'île de Lagen, à Palawan, » intervint Clark French. « L'hôtel s'appelle El Nido. »« Ça ne ressemble pas du tout à celui-ci. »« C'est plutôt chic, vous allez voir la différence, » continua-t-il d'un ton réprobateur. « Il y a des geckos sur l'île de Lagen ?» demanda Pedro à Clark French. « Ils sont comment, les lézards, là-bas »« Il y a des varans, d'énormes lézards carnivores, gros comme des chiens. » Ils courent ou ils nagent ? Demanda Consuelo. Les deux. Ils sont très véloces. Attention, tu vas leur donner des cauchemars, Clark, lui fit remarquer Josefa. C'est l'idée de cette mère et de sa fille qui me donne des cauchemars. Tu ne devrais pas en parler devant les gosses. Juan Diego haussa les épaules. Il ignorait la présence de Varan, mais l'idée de voir Dorothy dans une île plutôt chic, ça changeait tout. Il se sentait un peu coupable. Et ne détestait pas les reproches de son ancien élève. Sa condamnation morale avait un côté gratifiant. Il s'apercevait que Clark, Myriam et Dorothy étaient chacun à leur manière des manipulateurs. Alors il ne lui déplaisait pas de les manipuler un peu à son tour. Brusquement, il se rendit compte que Josefa tenait son autre main, celle qui n'était pas prise par Consuelo. « Vous boitez moins aujourd'hui, » lui dit-elle. « Vous semblez avoir rattrapé le sommeil en retard. » Il devait se montrer prudent avec le docteur Quintana. S'il ne prenait pas de l'oppressor, il faudrait qu'il fasse attention. En sa compagnie, il faudrait afficher un air plus abattu qu'il ne l'était réellement, car elle était très observatrice. « Non, je me sens en pleine forme aujourd'hui. En pleine forme, à ma mesure, » précisa-t-il. « Pas trop fatigué, pas trop diminué. » « Je vois ça. » Josefa pressa un peu plus sa main dans la sienne. « Vous allez détester El Nido, c'est bourré de touristes étrangers, » annonça Clark French. « Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui ?»« Quelque chose que j'adore, » dit Juan Diego à Josefa. Mais avant qu'il lui ait fait part de ses intentions, la fillette le devança. « Mister va se baigner !» s'écria-t-elle. Clark French s'efforçait de contenir sa réprobation devant l'idée même de bain de mer, et ça se voyait. Edward Moncho, Juan Diego et Lupe tenaient compagnie à Estrella et à ses chiens dans l'autocar du cirque où les clowns nains, Grabidon et Paco, sa partenaire pas très féminine, avaient également embarqué. Sitôt que Moncho s'était endormi, Paco lui avait peinturluré le visage et celui des deux enfants de boutons de rougeole éléphantine avec son fard à joues. Il avait barbouillé de même sa trogne et celle de Grabidon. Les voltigeurs argentins s'étaient, quant à eux, endormis, tendrement enlacés. Mais les nains avaient renoncé à les grimer, au cas où ils auraient pris la rougeole éléphantine pour une maladie sexuellement transmissible. Les jeunes acrobates qui papotaient sans trêve dans le fond de l'autocar étaient trop imbèches pour s'intéresser à la blague de la rougeole. Juan Diego soupçonnait fort les clowns nains de la faire systématiquement aux voyageurs sans méfiance lors des tournées de la Malavie. Pendant toute la route jusqu'à Mexico, le contorsionniste, alias l'homme pyjama, avait dormi allongé sur le plancher de l'autocar, dans l'allée centrale. Les enfants qu'il n'avait jamais vu déplier jusque-là s'étonnèrent de sa grande taille. Il n'était en rien dérangé par les chiens qui circulaient dans l'allée en le piétinant et en le reniflant au passage. Dolores, la merveille en personne, était assise à l'écart des petites acrobates. Elle regardait par la fenêtre, à moins qu'elle ne soit endormie, le front contre la vitre, confirmant ainsi son statut de petite conne pourrie attribué par Loupé, insulte concomitante à celle de néné de souris. Si ses grelots de cheville lui avaient valu l'épithète de pute brillante qui cherche à attirer l'attention, Juan Diego estimait que son attitude distante vis-à-vis des passagers du car en faisait le contraire d'une fille qui cherche à se faire remarquer. Il la trouvait triste et même tragique. Ce qui, selon lui, la menaçait le plus, ce n'était pas de lâcher prise pendant son numéro. Ce qui assombrissait son avenir, c'était Ignacio, comme Loupé l'avait prédit. « Que le dompteur la mette en cloque » s'était-elle écriée. « Meurs en couche, chatte de singe !» Loupé avait certes proféré ses invectives sous le coup de la colère, mais dans l'esprit de Juan Diego, cela revenait à une malédiction impossible à rompre. Il désirait Dolores. Il admirait aussi son courage. Il avait suffisamment testé la marche céleste pour savoir que l'idée même de la pratiquer à 25 mètres au-dessus du sol était proprement terrifiante. Ignacio, pour sa part, était au volant du semi-remorque qui transportait les cages des fauves. Il voyageait toujours avec ses lions, leur avait expliqué Soledad. Hombre, que Loupé avait surnommé le dernier chien, le dernier, el último perro, el último, faisait cage à part. Les señoritas, les femelles aux noms évocateurs, partageaient la même. Flore avait d'ailleurs observé qu'elle vivait en bonne intelligence. L'endroit où allait s'établir le cirque était situé au nord de Mexico, non loin du Cerro del Tepeyac, la colline où l'Indien à qui Juan Diego devait son nom avait, selon la légende, rencontré la Virgen Morena en 1531. Assez éloigné du centre-ville, il était relativement proche de la Basilica de Nuestra Señora de Guadalupe. Avant de s'y rendre, l'autocar où se trouvaient les enfants et Edward Bancho se désolidarisa de la caravane et fit un détour impromptu par le centre, à l'initiative des deux clowns. Paco et Grabidon tenaient à montrer leur quartier d'origine à leur partenaire de la Maravilla. Et ce fut au moment où l'autocar ralentissait dans les embouteillages, près de l'intersection de la calle Anillo de Circunvalación et de la calle San Pablo, que Señor Eduardo se réveilla. Perro Mestizo, le bâtard voleur de bébés, désormais appelé Bouffetou par Juan Diego, avait dormi sur les genoux de Loupé et trouvé moyen de pisser sur la cuisse de Señor Eduardo. Du coup, celui-ci crut avoir lui-même uriné dans son pantalon. Loupé, qui avait lu dans ses pensées, comprit sa confusion. « Dis à l'homme perroquet que Perro Mestizo lui a pissé dessus, » demanda-t-elle à Juan Diego. Mais à ce moment-là, l'Américain découvrit les boutons de rougeole éléphantine sur le visage des enfants. « Vous êtes couvert de boutons! Vous avez attrapé une saloperie !» s'écria-t-il. Grabidon et Paco tentaient d'organiser une excursion dans la calle San Pablo. L'autocar était à présent garé, quand il vit avec horreur que les deux clowns nains étaient eux aussi couverts de boutons. « C'est une épidémie » s'exclama-t-il. Paco tendit au futur défroqué le petit miroir de son fard à joues qu'il conservait toujours dans son sac à main. « Vous aussi vous en avez, c'est la rougeole éléphantine. C'est très courant dans les cirques, en général on n'en meurt pas. »« La rougeole éléphantine ?» s'alarma Señor Eduardo. « On n'en meurt pas, en général ?» Juan Diego vint aussitôt le rassurer en lui murmurant à l'oreille. « C'est une blague. Rappelez-vous que ce sont des clowns, c'est du maquillage. » « Mon rouge Bourgogne, Eduardo, » annonça Paco en lui montrant son petit poudrier. « Du coup, j'ai pissé dans mon froc, » lança Bancho, indigné au nain travesti. Mais Juan Diego était seul à comprendre son anglais quand il s'énervait. « C'est le bâtard qui a pissé sur votre pantalon, le même connard de chien qui vous a mordu, » lui expliqua-t-il. « Ça ne ressemble pas à un emplacement de cirque, » constata Edward Bancho en descendant de l'autocar derrière les enfants. L'excursion dans le quartier d'enfance de Paco et de Grabidon ne passionnait pas grand monde. Mais c'était la première fois que Juan Diego et Loupé se trouvaient dans le centre-ville de Mexico, et ils tenaient à voir la foule se presser dans les rues. Des marchands ambulants, des manifestants, des putains, des touristes, des voleurs, des vendeurs de bicyclettes, énumérait Grabidon qui conduisait la petite troupe. Et en effet, il y avait un magasin de vélos près du carrefour de San Pablo et de Roldán.